Bonjour et bienvenue dans votre magazine scientifique du vent dans les synapses. En raison d'un mouvement de grève à Radio France concernant un projet de réorganisation de l'entreprise, nous ne sommes pas en mesure de diffuser le programme initialement prévu. Nous vous proposons donc la rediffusion de deux entretiens cet après-midi. Dans un instant, nous repartirons à la découverte des tanins, ces molécules qui jouent des rôles insoupçonnés dans la nature. Une émission datant du 5 octobre 2019. En deuxième heure, nous replongerons à la rencontre des baleines à bosses, des cachalots, des orques et des dauphins, une émission du 28 septembre dernier. Et puis, vers 15h40, nous retrouverons Mathieu Novak de Science et Avenir et Benoît Tonson de The Conversation. Pour une revue d'actu de la semaine toute fraîche, nous parlerons entre autres de plantes capables d'émettre des ultrasons et de l'origine de la parole qui serait plus ancienne que nous le pensions. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Marie-Hélène Fauquet et préparée par Rebecca de Nantes avec à la technique Johanna Gabric.
France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé.
Belle robe vermeille, un peu violette, bel éclat. C'est un Bordeaux. Un grand Bordeaux. Un peu de pourriture noble en suspension. Les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans. C'est un 53, une très grande année. Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un Médoc.
Bonjour Marc-André Sellos.
Bonjour.
Vous êtes microbiologiste au Muséum National d'Histoire Naturelle et vous venez de publier « Les goûts et les couleurs du monde, une histoire des tanins, de l'écologie à la santé ». On découvre dans votre livre à quel point les tanins sont omniprésents dans la nature et dans notre quotidien. Nous avons commencé par ce verre de Médoc avec Louis de Funès dans l'aile ou la cuisse. Nous allons voir que le monde des tanins est bien plus vaste que uniquement l'univers des œnologues. Mais commençons donc par le vin. Vous dites dans votre livre que le vin est une des cathédrales des tanins. Dans quelle mesure les tanins façonnent le vin ?
Ils la façonnent de plein de façons qui vont en fait construire toute la sensorialité du vin, toute notre perception du vin. D'abord, c'est la couleur. Comme on l'entendait, la robe du vin, c'est soit les anthocyanes qui sont des tanins dans les vins rouges, soit d'autres tanins comme la quercétine dans les vins blancs, car il y a des tanins dans les vins blancs, quoique un peu moins, qui colorent plutôt en jaune, en vert pâle. Ça, c'est la première chose. Mmh. Ensuite, il y a, quand on porte le vin en bouche, une légère amertume. Ça, c'est vraiment un goût au sens strict. C'est toujours les tanins. Il y a éventuellement une petite âpreté, une astringence, comme on dit, une légère impression de bouche sèche qui passe très bien, en fait, sur les aliments. Ça, c'est les tanins qui, en interagissant avec les protéines qui lubrifient, les protéines de la salive qui lubrifient notre bouche, les empêche de lubrifier et là, vous sentez la rugosité de votre bouche. Et c'est ça qui donne ce toucher du vin, car c'est un toucher. Enfin, beaucoup de ces tanins sont à moitié à l'aise dans l'eau. Ils s'évaporent. Ceux qui font le nez du vin et puis qui font dans l'arrière-nez cette odeur. Et les quelques-uns d'entre eux qui s'agrippent à vos muqueuses et qui, après que vous ayez dégluti, se détachent et montent vers l'arrière-nez, ils font la queue du vin. Donc en fait, c'est une cathédrale parce que tous les sens sont convoqués dans la construction du plaisir du vin.
Pour faire l'expérience des tanins, si on se gave de petits fruits rouges, donc là, à tous les âges, on peut le faire, même ceux qui n'ont pas envie de boire de vin avec ces petits fruits rouges, quand on en abuse un peu, ce sont les tanins que l'on sent dans la bouche, cette sensation d'amertume.
Oui, qui vient quand on a vraiment abusé. Enfin, moi, étant gosse, je l'ai fait, hein, de fruits rouges, pas forcément très mûrs. On a une amertume qui vient. Et puis le lendemain, ou dans la soirée, le transit intestinal, disons, c'est fâcheusement augmenté, parce qu'en fait, les tanins finissent aussi par interférer avec d'autres protéines qui sont plus loin dans le tube digestif, qui aident à la digestion, nos enzymes digestives, et donc on digère mal. Et c'est comme ça qu'on attrape la chiasse, disons-le, quand on a abusé des fruits pas mûrs, ce que tous les enfants ont fait.
En fait, nous faisons l'expérience des tanins à d'innombrables reprises au cours de notre vie. Vous donnez de multiples exemples dans votre livre, l'amertume de l'endive, la couleur des feuilles en automne ou celle des fleurs au printemps, l'odeur du foin coupé, tout ça relève des tanins.
Ils sont partout, notamment partout dans les végétaux, car ceux qui les synthétisent. Et effectivement, du coup, ils vont diversement habiter notre environnement. Ils sont souvent colorés, donc ils vont donner des couleurs. Ils sont souvent goûtés, donc quand on mange, ils vont contribuer au goût. Mmh. Et puis aussi, ils se volatilisent assez bien. Par exemple, l'odeur du foin coupé, oui, c'est la coumarine. C'est un petit tanin qui, quand le foin sèche, s'échappe. Et d'ailleurs, c'est le même que dans la vodka à l'herbe de bison. D'ailleurs, dans la vodka à l'herbe de bison, il y a un petit morceau de foin dedans, hein, disons-le. Un petit hiérocloa pour donner le nom de cette plante. Et cette plante donne le goût de coumarine, qui a un goût assez délicieux, assez fin. Je recommande aussi, tiens, de farcir le lapin avec une plante qu'on appelle le mélilot. Ça lui donne ce goût-là quand on le rôtit avec du mélilot dans le ventre.
Chimiquement, c'est quoi un tanin, Marc-André Sellos?
Alors, c'est une famille de molécules extraordinairement diverses. Hein, on en connaît pratiquement une dizaine de milliers différents, mais... Pour faire simple, et je fais très simple, les chimistes vont peut-être me taper sur les doigts, c'est une molécule qui contient un groupement qu'on appelle un phénol. Ouais. Alors, c'est un groupement qui a la caractéristique d'être souvent coloré, souvent aromatique, et qui va conférer aux tanins leurs propriétés, comme par exemple celle d'interagir avec les protéines. Ouais. C'est une famille de molécules chimiques, tout comme les sucres, ou les protéines, ou les lipides. Sauf que, on parle de ces trois-là.
On parle jamais des phénols ou des tanins, pour le dire dans une langue plus accessible. Toutes les plantes produisent des tanins?
Oui, justement. Les plantes ont des arsenaux chimiques très complexes, avec des terpènes, des alcaloïdes, des tas de choses comme ça. Mais toutes n'ont pas chacune de ces molécules. En revanche, les tanins, c'est vraiment une construction de base de la plante. Et c'est pour ça qu'il y en a vraiment partout. Toutes les plantes en contiennent entre quelques pourcents et 30, 40, 50% parfois.
Alors ces molécules, ces tanins, leur permettent par exemple de se défendre. Pour le comprendre, il y a cette histoire que vous racontez dans votre livre. Ça se passe en Afrique du Sud, dans la seconde moitié du XXe siècle, et ça commence comme une sorte d'enquête policière avec des grandes antilopes que l'on nomme koudou qui meurent dans les parcs naturels.
Ah oui, c'est bizarre. On les enclôt pour les protéger de leurs prédateurs et des chasseurs. Et là, elle meurt, alors qu'elle devrait se trouver plus protégée que dans la nature. Au début, c'est un peu l'incompréhension.
Et alors, on se rend compte que ces antilopes mangent régulièrement des acacias. Donc on commence à se demander si les acacias dont elles se nourrissent ne sont pas dans le coin.
Oui, elles meurent à la période sèche où il reste guère que ces arbres et ces arbustes-là à manger. Et donc l'enquête s'oriente vers ce qui est devenu leur ordinaire en saison sèche.
Ouais. C'est à savoir comment ces arbres avaient empoisonné les koudous. Alors les scientifiques ont enquêté.
Nous avons reproduit la prédation naturelle des koudous en cueillant ou en endommageant les feuilles d'un même arbre, comme ils le font, sur une période de 3 ou 4 heures.
Sans relâche, les étudiants vont agresser un arbre, espérant qu'en retour, l'acacia abusé enclenchera ses armes chimiques. Toutes les demi-heures en élèves appliqués, les assistantes du professeur lui rapportent les échantillons. Puis il procède à une série d'opérations pour extraire les tanins.
Il est évident que le taux de tanins augmente, même sur une courte période de 3 heures. Nous avons découvert que plus la plante est grignotée, plus elle active ses défenses en augmentant le taux de tanins dans ses feuilles.
Marc-André Sellos, suite à une agression, les acacias sont capables d'augmenter leur production de tanins pour tuer leurs agresseurs.
C'est une réaction des plantes que d'accumuler encore plus ces composés protecteurs quand elles sont mises en péril. Il y a plein de raisons pour ça. D'abord, c'est un antioxydant. Et ça va éviter tous les stress qui sont liés à l'afflux d'oxygène dans les tissus qui se sont retrouvés abîmés. Mais aussi, ce sont des composés qui, on le disait tout à l'heure, vont couper la digestion des animaux en interagissant avec leurs enzymes digestives. Donc, en gros, ça rend indigeste l'aliment. Donc, c'est une très bonne stratégie, effectivement, dans ces cas-là. Mais en réalité, les koudous qui meurent, ils ne meurent pas de ne pas digérer, ils ne meurent pas de faim. Il y a tellement de tanins, en fait, on a jusqu'à 12-13% de tanins en pois sec dans ces acacias. Il y en a tellement que ces tanins rentrent dans le sang. Et là, ils sont retirés du sang par les organes purificateurs du sang, le foie, les reins. Et en fait, c'est sans doute de lésions de ces organes-là, d'interaction avec les protéines dans ces organes-là, dans l'intimité du corps de l'animal, que les koudous sont morts.
Ce qui a été fatal pour ces grandes antilopes, ces koudous, c'est qu'elles étaient enfermées, qu'elles ne pouvaient pas aller plus loin, parce qu'habituellement, le système s'autorégulait, c'est-à-dire que les acacias produisaient des tanins, les koudous, en grignotant les feuilles, sentaient le goût changer, une amertume plus prononcée, et allaient brouter des arbres un peu plus loin, laissant tranquille celui qu'ils avaient commencé à attaquer. Mais là, le fait de ne pas pouvoir aller au-delà des barrières font qu'ils se sont acharnés sur les arbres qui étaient devenus mortels.
Et oui, ces barrières qui étaient censées les protéger, en les empêchant de bouger et de passer d'arbre en arbre, les ont tout simplement condamnés à manger des arbres qui avaient réagi à leur présence, alors que d'habitude ils se baladent. Et dans leur alimentation, on ne trouve pas plus de 3, 5, 6%, c'est-à-dire la moitié de la charge de tanin à laquelle ils se sont retrouvés confrontés. Ouais. Et ils gèrent une petite quantité de tanin. Je vais vous dire, c'est même des animaux qui, pour bien digérer, ont besoin de tanin, mais pas trop. C'est toujours la dose qui compte.
Hein. Oui, c'est ça. Et nous-mêmes, en fait, ce goût, cette amertume que l'on ressent lorsque l'on mange des plantes qui sont fortes en tanin, c'est des messages qu'on nous envoie, c'est censé nous repousser un peu.
Ah, mais c'est un avertissement, oui. Oui, oui, aussi bien l'astringence que nous décrivions tout à l'heure, que l'amertume des tanins, que leur odeur. Nous avons été sélectionnés dans notre évolution d'animaux qui se baladaient et qui mangeaient un petit peu de tout pour les détecter. Mmh. Car effectivement, il faut savoir les éviter quand ils sont en abondance. Mmh. Donc, c'est pas un hasard s'ils ont une odeur, s'ils ont un goût, si nous les percevons. C'est que, historiquement, nous devions éviter d'en manger trop.
Ouais. Puisque ces tanins ont quand même des propriétés parfois dangereuses, pourquoi les végétaux qui produisent ces tanins n'ont pas leur tissu abîmé?
Ah ben c'est une bonne question, parce que les végétaux contiennent aussi des protéines, les cellules végétales contiennent des protéines, et elles pourraient se retrouver aussi empêchées de fonctionner et donc d'accomplir leur rôle au sein de la vie cellulaire. Alors ça renvoie à une propriété particulière des cellules de plantes, par lesquelles les plantes diffèrent des animaux fondamentalement, c'est qu'elles ont une poche dans la cellule, qu'on appelle la vacuole, dont elles se servent essentiellement pour stocker leurs ordures. Alors, c'est une poche qui ne fuit pas, parce qu'évidemment, il est hors de question que les ordures sortent. Ce que j'appelle ordures, c'est les déchets de la vie cellulaire. Mais une fois qu'elles ont cette poche, elles peuvent aussi y stocker des toxines. Et parce que ces toxines restent dans la poche, elles ne vont pas interférer avec la vie de la cellule. Donc la plante, à un endroit où elle peut stocker des déchets. Les animaux, non. Perdez-vous dans la nature. Je vous recommande de ne pas manger n'importe quelle plante. 4 plantes sur 5 sont dangereuses pour vous, contiennent des toxiques cachés dans leur vacuole. Mais si vous avez des animaux, mangez-les, hein, parce que eux, ils sont très rarement toxiques, alors que les plantes le sont souvent. Ouais. Les plantes ont une vacuole où elles peuvent planquer des bombes à retardement pour qu'ils les mangeraient et libéreraient le contenu de ces vacuoles, alors que les animaux, eux, non, non.
Ouais. Votre message, manger des animaux plutôt que les plantes, va faire bondir certains auditeurs, Marc-André Sellos. Ce que je retiens, chaque cellule de plante, toute la vie de la plante, accumule ses poubelles. Une drôle de façon de fonctionner.
Oui, mais c'est le prix à payer pour une autre particularité des cellules de plantes, qui est d'être prise dans une capsule qu'on appelle la paroi, qui fait que les plantes sont plus rigides. Et là encore, quand vous comparez un animal à une plante, ben la plante est souvent plus rigide que l'animal, qui est souple. Elles sont prises dans une capsule. Alors cette capsule protège et porte la cellule. C'est une sorte de corset. Mais on peut plus rejeter ses déchets dehors, parce que sinon on les accumule entre soi et sa paroi. Et ça revient, si vous me passez l'expression, à se chier dessus. Donc, effectivement, la cellule est complètement organisée différemment, et c'est quand les cellules meurent, les feuilles tombent par terre, les vieilles branches tombent par terre, qu'on sort les poubelles, en fait. C'est là que retourne le contenu de ces poubelles cellulaires, les vacuoles, au sol.
Les plantes que nous cultivons ont-elles moins de tanins que les plantes sauvages?
Oui, bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on peut aujourd'hui manger en abondance, pour répondre à ce que vous suggériez tout à l'heure, des végétaux et qu'on n'est pas obligé de manger que des animaux. Évidemment. Oui, oui. Quand on a domestiqué les plantes, on a domestiqué des plantes qui contiennent moins de molécules toxiques et notamment moins de tanins toxiques. On a gardé ceux qui avaient du goût. On a gardé effectivement des choses qui sont en quantité et puis de nature acceptable. Et pour le coup, c'est un peu d'ailleurs pour ça que nos plantes ont un peu besoin d'un coup de main pour se défendre maintenant contre les agressions champignons, bactéries, herbivores et que insectes. Et c'est un petit peu le prix à payer, c'est qu'aujourd'hui, on doit défendre ces plantes qui ne se défendent plus avec des défenses naturelles parce que nous avons sélectionné des plantes moins riches en tanins. Le prix à payer, c'est de mettre des insecticides et des fongicides. Et c'est un grand défi de l'agriculture actuelle que d'arriver à maintenir des plantes qui ont abaissé leur garde, leur défense, sans qu'elle soit malade.
Les tanins ne sont pas seulement des épines moléculaires, hein. Leur rôle chez les plantes sont bien plus vastes, on le découvre en lisant votre livre. Vous dites en fait que ces tanins sont les couteaux suisses, c'est votre expression, les couteaux suisses des plantes.
On évoquait tout à l'heure le fait qu'elles avaient un rôle antioxydant, ces molécules, ces tanins. Ils ont aussi un rôle contre les radicaux libres. Donc, c'est un peu des choses qui protègent de tous les désordres qui peuvent arriver quand un tissu fonctionne mal. Mmh. Donc, dans toutes les conditions de stress, on va retrouver des tanins éventuellement accumulés spécialement. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on cultive la vigne dans des sols très secs, où elle accumule plein de tanins parce qu'elle est stressée, mmh. ou le thé en altitude. Les meilleurs thés sont d'altitude parce que le froid, les éclairements forts d'altitude, tout ça induit des tanins. Alors, les tanins ont aussi des rôles, beaucoup sont colorés, on l'a dit.
Oui.
Ils protègent contre la lumière aussi. Des jeunes tiges, par exemple, qui poussent hors de la frondaison, vont souvent être assez colorées. Regardez vos rosiers, par exemple. Les jeunes pousses sont rouges. Eh bien, en fait, comme elles poussent hors de la masse et qu'elles sont exposées à des lumières très fortes, elles sont protégées ainsi. Tiens, sur le rosier, vous pouvez même faire la comparaison. Goûtez une feuille verte, puis une de ces jeunes feuilles rouges des jeunes pousses, vous verrez la différence d'amertume et d'astringence. Les jeunes pousses sont bourrées de tanins qui les protègent des forts éclairements.
Comment on goûte une feuille de rose? On mâche franchement, on croque
ouais,
un peu.
On mâchouille puis on crache. Vous verrez, c'est quand même pas fabuleux. Hein.
Ouais.
Mais oui, par contre, on peut pas, comme je disais tout à l'heure, mettre tous les végétaux dans la bouche. Mais ouais. Si c'est un rosier, là, vous avez le droit. Faites juste attention aux épines et vous mâchouillez, vous verrez se dégager ces caractéristiques aromatiques.
Ouais. Et puisqu'ils ont des couleurs, ces tanins, ils jouent aussi un rôle dans la reproduction des plantes.
Voilà, ils sont une formidable opportunité à cause de leurs couleurs pour dialoguer avec les animaux. Et en particulier, effectivement, les fleurs qui colorent notre environnement, qui sont vraiment les couleurs du monde. Eh bien, les fleurs sont bourrées de tanins. Les anthocyanes rouges qu'on retrouve dans le vin, les flavonoïdes qui sont plutôt jaunes ou blancs, qui ont même d'ailleurs des couleurs dans les ultraviolets. Alors, vous et moi, on voit pas les ultraviolets, mais les insectes, notamment les hyménoptères, comme les abeilles, ils sont très sensibles. Donc, toute la signalétique qui permet aux insectes de repérer les fleurs est liée aux tanins. Mais c'est également vrai pour les animaux qui s'intéressent aux fruits. Et en fait, d'animaux qui s'intéressent aux fruits, vous et moi, le rouge ou le violet sont très appétants. Or, ce sont souvent des couleurs associées aux fruits. Mmh. Nous avons coévolué avec les fruits la capacité de reconnaître ce rouge dans la verdure, parce que pour nous, c'est une source de sucre idéale à la saison où il y en a. Donc nous aussi, nous faisons partie des animaux avec lesquels les plantes dialoguent à coups de tanins.
Elles dialoguent, elles nous manipulent même à coups de tanins, finalement. Elles nous attirent, elles nous séduisent grâce à ces couleurs, parfois aux odeurs aussi, qui sont pour certaines liées à ces tanins.
Effectivement, il y a quelques odeurs tanniques. Bah, prenons par exemple l'odeur de rose qu'on retrouve aussi dans le litchi. C'est un tanin au sens large, mais le phényléthanol est un tanin tout à fait parfumé. Alors, je ne voudrais pas que les gens mangent n'importe quoi après m'avoir entendu.
Oui, c'est ça. Prenez les précautions qu'il faut, s'il vous plaît.
Si
Marc-André,
vous connaissez les cosmos,
oui, des fleurs donc.
Oui. Goûtez les grandes pétales. Alors, ce n'est pas des pétales très exactement, on s'en fiche. Hein. Les grands pétales rouges des cosmos, vous verrez, c'est délicieux. On retrouve le phényléthanol, c'est entre le litchi et la rose. Et donc, effectivement, il y a des odeurs aussi.
Ouais. Et puis, les tanins sont aussi responsables, alors là, on entre dans des molécules géantes, sont aussi responsables de la forme des plantes, de celle des arbres.
Alors voilà, là, on tourne la page des petits tanins qui peuvent...
On rentre dans la cour des grands.
Oui, on rentre dans la cour des grands et des gros, pour le coup. Effectivement, ces tanins peuvent s'accrocher ensemble et éventuellement s'accrocher à des choses autour d'eux pour former des super molécules qui, en fait, vont avoir deux rôles dans la plante. Le premier, c'est un rôle de rigidification. On va trouver ça dans les nervures, dans les troncs. Et le bois, c'est des tanins, qu'on appelle très exactement des lignines. Et puis, il y a une autre grosse molécule qui est, elle, plus imperméable, qui est utilisée pour faire l'écorce et qui empêche les fuites de sève, en quelque sorte.
Ouais.
Hein, qui va imperméabiliser les troncs. C'est la subérine. On retrouve ça dans le liège. Le liège, hein, c'est de l'écorce de chêne-liège. C'est cette grosse molécule imperméable. Donc, là, par contre, c'est des grosses molécules et elles occupent un volume énorme et c'est elles qui font que les tanins,
ouais,
bon an, mal an, c'est 20 à 40% de la masse vivante des écosystèmes, ouais, à cause de ces grosses molécules.
Oui, c'est ça. Alors, on s'étonne de ne pas en avoir entendu plus parler que ça parce qu'en fait, ils sont très présents, ces tanins.
Mais que voulez-vous ? À force de ne s'intéresser qu'aux animaux, ce qui est une forme d'anthropocentrisme. Les animaux ont guère de tanins, ou si on accepte les insectes et quelques bricoles dans les coins, il y a peu d'animaux qui ont des tanins. Ils sont faits de lipides, de glucides et de protides. Et on navigue tous avec cette vision-là, qui est très utile par rapport à l'alimentation. Mais du coup, on omet, parce qu'on ne voit pas le végétal, que lui, il a des tanins, et les tanins, c'est par abondance, juste derrière les glucides, la deuxième famille de molécules dans notre environnement.
Les tanins sont partout dans la nature, ils se sont aussi fait une bonne place sur nos tables, thé, café, chocolat, clous de girofle. Pourtant, vous nous avez expliqué que certaines plantes empoisonnent leurs agresseurs avec leurs tanins. Vous allez nous dire si ces molécules peuvent aussi avoir des vertus bienfaitrices. Marc-André Sellos nous fait découvrir le monde méconnu des tanins cet après-midi sur France Inter.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree.
Lemon tree, c'était Fool's Garden.
France Inter. Du vent dans les synapses.
Dans l'entrepôt, plus de 400 thés en vrac. Il y a les thés noirs fermentés, ou encore les thés verts et les thés blancs de plus en plus appréciés en
France. On parlait de l'astringence, d'un côté fleuri, fruité, d'une longueur en bouche, d'une épaisseur, d'un thé charpenté, d'un thé qui a du corps, etc.
Comme le vin.
Exactement comme le vin.
L'eau doit être à peine frémissante et l'infusion dure entre 3 et 5 minutes.
Si on dépasse le temps, les tanins se développent. Ils vont donner l'amertume et éventuellement l'astringence à la tasse de thé.
Notre invité, Marc-André Sellos, vient de publier « Les goûts et les couleurs du monde, une histoire naturelle des tanins, de l'écologie à la santé ». Des tanins, on en trouve aussi beaucoup dans le thé, Marc-André Sellos.
Oui, on disait tout à l'heure d'ailleurs que les meilleurs thés sont ceux qui ont été élevés en altitude, parce qu'effectivement les conditions stressantes ont amené les théiers, qui sont une espèce de camélia, à développer effectivement le maximum de tanins. Alors ces tanins sont beaucoup modifiés par le traitement. Dans les thés verts, un séchage rapide les empêche de faire quoi que ce soit. Donc les feuilles restent vertes et les tanins sont assez agressifs encore, ils sont nombreux. Dans les thés noirs, que les Chinois appellent rouges, et c'est beaucoup plus juste par rapport à la couleur de la boisson, là au contraire, il y a des vieillissements, des maturations, et les tanins ont le temps de s'accrocher aux protéines protéines de la feuille, ça libérera finalement moins de tanins dans la macération. Puis, il y a une kyrielle d'actions. Il y en a qui sont séchés au soleil, d'autres qui sont chauffés. Dans les thés bleus, il y en a qui sont chauffés à 200 degrés. Mmh. Et on retrouve des choses qu'on a pour le vin, après tout. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des vins qu'on fait vieillir au soleil, il y a des vins qu'on fait chauffer, comme le Madère. Et finalement, on a des crus aussi, des régions qui donnent des très beaux thés. Et dans ces régions-là, on a carrément des millésimes.
Alors, on en trouve dans le vin, dans le thé, dans le chocolat, dans les clous de girofle, et la liste serait absolument interminable, alors qu'on a commencé cette émission en expliquant que ces tanins étaient produits en partie par les plantes pour se défendre, pour empoisonner leur adversaire. On a fait de ce poison une substance qui nous plaît, qui nous soigne même parfois.
Eh bien oui, oui. Alors, bon, soyons clairs, les doses sont sans commune mesure avec la toxicité. Mais regardez, le clou de girofle, on en a dans les alcools de dentiste. Pourquoi ? Parce que c'est antibactérien. La noix de muscade, par exemple, c'est un hallucinogène puissant. Puis alors, je ne vous le recommande pas. Parce qu'en plus, ça fait vraiment très très mal au bide. Hein. Et donc, effectivement, ces molécules sont toxiques en grande concentration. Et on peut se demander pourquoi on en a mis un peu dans notre alimentation.
Ouais.
Alors vous allez me dire, parce que ça a bon goût. Les enfants mettent du temps à s'y habituer. C'est un trait culturel, c'est un trait appris d'apprécier ses goûts. Un peu d'ailleurs comme le goût du vin ou du thé que d'emblée les enfants, à rares exceptions près, n'apprécient pas beaucoup. Hein. Non, non, en fait, tout ça remonte, à mon avis, à l'époque où nos aliments étaient susceptibles de se corrompre dans le stockage, où nos liquides étaient susceptibles d'être contaminés par exemple, des contaminations fécales. Et où, effectivement, il était plus sain, finalement, d'avoir une petite dose de tanin dans l'alimentation, parce que ça stérilisait, ça empêchait les développements microbiens. Et d'ailleurs, on sait très bien que dans la quantité d'épices et donc de tanins que l'on met dans les plats, il y a un gradient du nord au sud. Plus on va vers le sud, plus on va vers l'équateur, plus il y en a. Or, ce sont des conditions qui sont d'autant plus propices avec la chaleur et l'humidité au développement des bactéries. Donc, c'était à la base une protection. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça, on a des frigos, hein. Mais on continue de propager cette habitude, ce trait culturel de génération en génération, alors même que la raison biologique, technique, a disparu. Ouais.
On les a d'abord utilisés pour leurs vertus antimicrobiennes, pour la santé. On y a pris goût. Aujourd'hui, plus rien ne nous contraint à les utiliser. Mais on ne peut plus s'en passer.
On reste accro à ça culturellement. Et c'est vrai qu'un chocolat ou un plat finement épicé, bah, c'est un plaisir. Mais c'est un plaisir appris. Car notre tendance naturelle est à la répulsion de l'amer, à la répulsion de l'astringence et des goûts forts des tanins. Nous apprenons à les aimer et maintenant nous les aimons même si nous n'avons plus un besoin vital.
Alors,
sauf pour le plaisir.
Nous avons appris à les aimer, nous avons appris aussi à les utiliser, les propriétés de ces tanins, et pas seulement pour la cuisine. Les propriétés antioxydantes des tanins sont aussi utilisées pour l'élaboration de produits cosmétiques.
Écraser, exploser, ridiculiser les vitamines E, les polyphénols contenus dans ces pépins de raisin sont 10 000 fois plus actifs dans la lutte contre les radicaux libres. En clair, dans la lutte contre les responsables du vieillissement cutané. Ici, les polyphénols du vin sont plus connus sous le nom de tanins. La faculté de pharmacie de Bordeaux vient donc de stabiliser ces fameux antioxydants en les associant à un acide gras.
On a testé nos produits sur des volontaires et il y a une personne qui a vu ses rides diminuer de 87%. Donc on a des moyennes anti-rides absolument excellentes. En plus, c'est un produit qui hydrate la peau, il y a un effet hydratant qui est extrêmement puissant.
Petit retour en arrière, le pépin se trouve au cœur du raisin. Il faut donc vendanger, érafler et presser avant de collecter la tonne de pépins nécessaire à la fabrication d'un kilogramme de principes actifs.
Ça fait beaucoup de pépins de raisin pour un pot de crème, hein, Marc-André Sellos. C'était un extrait d'un reportage diffusé sur France 3 Aquitaine en 1995. Donc ces propriétés antioxydantes, elles sont vraiment utiles pour mettre au point de nouvelles crèmes anti-rides ?
Alors oui, bon, moi je suis pas un spécialiste de la peau, mais je sais que c'est très très utilisé effectivement en cosmétique. Ce qui est certain, c'est que ces propriétés antioxydantes existe. Cela dit, maintenant, pour la santé de l'homme, on a bien du mal à montrer qu'il y a une corrélation entre la quantité de polyphénol, donc de tanins que l'on absorbe, et des paramètres de santé. C'est encore une question très très débattue. En particulier, il y a un célèbre tanin, le resvératrol, qui est bien connu pour se trouver dans le vin, et qui a des tas de propriétés chez les souris, sur des levures en culture, qui allongent leur vie. Mais chez l'homme, on est encore très très loin de montrer que les propriétés antioxydantes du resvératrol réellement améliorent notre longévité ou notre condition de vie.
On utilise des tanins dans certains médicaments aujourd'hui ?
Oui, oui, absolument, absolument. Les tanins ont aussi d'autres caractéristiques, notamment au niveau de la circulation, par exemple, hein, au niveau circulatoire. Ils provoquent un tonus veineux. Ils sont aussi utilisés contre les cystites. Alors là, c'est très intéressant parce que, en fait, les tanins, nous, on n'en fait rien, hein, donc on les balance dehors. Mmh. C'est pour ça que quand on boit des tisanes ou quand on mange trop de salades, comme des pissenlits, bah, ça fait uriner, hein, pissenlits. C'est... En fait, on les rejette dehors puisqu'on ne peut pas les mettre dans notre métabolisme, les utiliser. Et donc, les tanins se retrouvent dehors. Et notamment, ils se retrouvent dans la vessie. Et il y a tout un tas de tanins de canneberge, par exemple, hein, ou de myrtille américaine qui sont utilisés parce qu'en fait, dans la vessie, ils vont empêcher les bactéries qui provoquent les cystites, en altérant leurs protéines de surface, ils vont les empêcher de se fixer sur la paroi de la vessie, donc elles vont se retrouver expulsées. Voilà, donc, ce sont des utilisations dans la pharmacopée des tanins. Et il y en a une aussi plus ancienne, hein, c'est que les tanins, en provoquant des diarrhées, provoquaient l'expulsion des parasites digestifs. C'est aussi un vermifuge et un antiparasite historique.
Donc on s'en sert comme diurétique ou comme laxatif de ces tanins.
Effectivement, c'est une propriété qu'ont beaucoup de plantes, simplement parce que beaucoup de plantes, sinon toutes, contiennent des tanins.
Les tanins sont aussi responsables de certaines odeurs que l'on peut sentir dans la nature. On peut les utiliser pour fabriquer des parfums ?
Ah oui, tout à fait. Alors, dans les parfums, c'est des tanins d'un lichen, qu'on appelle la mousse de chêne, mais c'est un lichen, qui sont les plus utilisés. Et là, justement, il y a à la fois, c'est les notes chyprées ou de sous-bois qu'on a dans certains parfums, comme Eau Sauvage de Dior, qui a été un des premiers parfums à utiliser ça. Et alors, là, c'est très intéressant parce que, techniquement, non seulement ça amène une note odorante, mais c'est un antioxydant. Mmh. Un antioxydant qui va protéger les autres parfums. On retrouve la fonction antioxydante. Mais aussi, on retrouve la toxicité. Et aujourd'hui, il y a des législations assez strictes sur la quantité que l'on peut mettre dans des parfums, car à haute quantité, ça provoque des allergies.
D'où vient ce mot tanin, Marc-André Sellos ?
Alors, ça rentre encore dans la grande galaxie des utilisations qu'on a fait des tanins. Quand on dit tanin, on pense à tanage, le tanage des cuirs. Alors, le cuir, c'est des protéines, on est d'accord. Et en fait, quand on tanne des cuirs, on met des tanins végétaux avec le cuir, et ces tanins, ils font leur boulot qui est de s'accrocher aux protéines, et ça donne un espèce d'agrégat de tanins et de protéines qui est à la fois plus difficile à pourrir pour les microbes, et puis plus résistant mécaniquement. Donc ça améliore les cuirs. Pour ça, on utilisait de l'écorce de chêne. Et en fait, en langue gauloise, c'était tanne. Le chêne. Et les extraits ou l'utilisation de l'écorce de chêne a donné le mot tanin, qui nous montre à la fois l'inscription végétale des tanins, puisque tan, c'est le chêne, et aussi l'ancienneté de ses utilisations.
Ouais. On retrouve aussi ça dans la racine, en allemand, le Tannenbaum, qui est le sapin. J'avais jamais fait le rapprochement. L'arbre tanin.
Que les Allemands, bon, qui ont moins de chêne que nous, utilisent éventuellement comme source de tanin. Ouais. C'est l'arbre à tanin, Tannenbaum. Baum, c'est l'arbre.
Alors, nous avons appris à utiliser ces tanins depuis des années, des siècles. On se rend compte en vous lisant à quel point les tanins sont importants dans la nature. Et d'ailleurs, vous dites qu'en écologie, on appelle les gènes qui permettent aux plantes de produire des tanins des gènes clés de voûte. Pourquoi cette appellation ?
Alors, ça veut dire que quand on est dans un paysage où il y a des plantes qui produisent beaucoup de tanins, ben, il y en a tellement que ça empêche les microbes et les petits animaux du sol de faire leur boulot. Donc c'est des sols où la matière organique qui tombe par terre, les bouts de feuilles, les bouts de bois, pourrissent très lentement, très mal. Typiquement, c'est ce qui se passe dans les langues bretonnes, par exemple. Dans les landes bretonnes, si vous creusez un peu, vous avez une espèce de matière noire poudreuse, c'est des restes qui se décomposent mal. Ah oui, mais s'ils se décomposent mal, eh bien, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'azote et de phosphate relargués pour que d'autres plantes poussent. Ça fait ces paysages où il ne pousse pas beaucoup de plantes. Et vous ne pouvez pas faire d'agriculture. Et ça, clairement, c'est les tanins et la quantité de tanins que produisent les plantes qui décident finalement de ces paysages associés où il y a très peu de plantes qui poussent et de l'utilisation qu'on peut en faire.
Vous avez l'art, hein, Marc-André Sellos, de nous montrer le monde tel que nous ne le voyions pas. Dans votre précédent ouvrage, Jamais seul, vous nous initiez au rôle des micro-organismes dans la façon d'organiser les paysages et dans tous les services qu'ils nous rendaient. Avec ce nouveau livre, Les goûts et les couleurs du monde, une histoire naturelle des tanins, de l'écologie à la santé, paru chez Actes Sud, ce sont les tanins qui révèlent tout leur intérêt, toute leur importance dans notre monde.
Oui, on peut faire une citation de Bachelard ?
Allez-y.
Accéder à la science, c'est accepter une mutation brusque qui doit contredire un passé. En fait, la science, elle est intéressante quand elle nous raconte autre chose que ce qu'on imagine sur ce qu'on croit très bien connaître.
Un grand merci à vous, Marc-André Sellos.
Merci.
En raison d'un mouvement de grève à Radio France concernant un projet de réorganisation de l'entreprise, nous n'avons pas été en mesure de diffuser le programme initialement prévu. Il s'agissait d'une rediffusion d'une interview datant du 5 octobre 2019. Dans un instant, place à la revue d'actu avec au menu des discussions la parole qui pourrait être plus ancienne qu'on ne le croyait et des plantes qui émettraient des ultrasons quand elles sont stressées. Mathieu Novak de Science et Avenir et Benoît Tonson de The Conversation vont tout nous expliquer.
J'ai peur de devenir fou. Je vois danser les orages. J'ai peur de devenir fou. Parfois esselé. Esselé. Sur la forêt, la foudre s'abat. Devenir fou parfois et se les quand tout devient si noir au fond de tes yeux
courir nu, l'asphalte se fend sous tes pas, je crois devenir fou parfois, esselé. Devenir fou parfois, esselé.
Esselé.
C'était Isia et Dominica qui chantaient Esselé. Et la programmation musicale du Vent dans les Synapses est signée Muriel Pérez. Et puis un petit clin d'œil à Ludovic Conil qui effectue son stage de 3e à France Inter cette semaine et qui a passé l'après-midi avec nous.
Du Vent dans les Synapses. Daniel Fievé.
Et autour de la table, Mathieu Novak de Science et Avenir et Benoît Tonson de The Conversation. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour, professeur Schwab.
Bienvenue dans la serre numéro 3, les deuxièmes années. Approchez-vous tous. Aujourd'hui, nous allons rempoter des mandragores. Qui peut me dire quelles sont les propriétés de la mandragore? Oui, Miss Granger.
Le cri de la mandragore est mortel pour quiconque l'entend.
Exactement. Vous tenez votre mandragore d'une main ferme, vous la tirez la poussette hors de son pont.
Un extrait d'Harry Potter et la Chambre des Secrets. Faites taire cette mandragore. Alors, nous n'avons pas encore découvert l'équivalent de la mandragore, mais les plantes seraient capables d'émettre des sons, Mathieu Novak ?
Oui, oui, c'est une information assez extraordinaire qui ne va pas surprendre donc les fans de Harry Potter, comme on vient d'entendre dans cet extrait, habitués à voir la mandragore pousser des cris si forts qu'elle peut entraîner la mort. Mais quand même, malgré ça, d'après des chercheurs d'un grand laboratoire dédié aux plantes à l'université de Tel Aviv, les plantes peuvent émettre des sons quand elles sont soumises à un stress. Pour faire cette incroyable découverte, ils ont placé des microphones à une dizaine de centimètres de plants de tomates ou de tabac. Et qu'ont-ils découvert ? Que quand la plante est privée d'eau ou qu'on lui coupe des tiges, eh bien ces plants, ils émettent un son qu'on peut capter avec le microphone. Jamais cela n'avait été capté auparavant.
Ouais, mais ça paraît complètement incroyable. Comment expliquer qu'on n'avait jamais entendu ces sons ? Ils sont trop faibles pour être perçus à l'oreille ?
Non, en fait, c'est que c'est des sons qui sont à une fréquence que l'oreille humaine n'entend pas. Alors, pour rappel, notre oreille, elle est sensible à des fréquences entre 20 Hz et 20 kHz. Et là où les chercheurs ont mesuré ces sons, c'est au-delà, c'est-à-dire c'est entre 20 kHz et 100 kHz, c'est-à-dire des sons plus aigus que ce que nous pouvons entendre. On parle ici du domaine des ultrasons. Alors ce qui est amusant, c'est de se dire que les chats ou les chiens, eux, ils peuvent entendre jusqu'à 50 kHz et les souris jusqu'à 100 kHz. Donc en théorie, eux, ils pourraient entendre ces sons. Si ça se trouve, on pourrait même imaginer des expériences avec des animaux dans les serres qui écoutent les plantes. Bon, on n'en est pas là.
Oui, ça paraît incroyable, c'est-à-dire qu'un chien qui se promène dans une serre, il entend quelque chose.
Ça reste à prouver, ah, mais oui. À plusieurs mètres, c'est tout à fait plausible. Bon, pour le moment, on dépouille encore les premiers enregistrements et on a vu que les plantes, elles émettent des sons de temps à autre en permanence. Mais quand elles ont soif, alors soif pour elles, ça veut dire 10 jours sans eau, eh bien les plants de tomates, ils poussent 35 sons par heure. Les plants de tabac, 11. Et quand ils sont attaqués par un terrible sécateur aux lames tranchantes, les plants de tomates, ils émettent 25 sons par heure contre 15 pour le tabac.
Est-ce que ça veut dire que les plantes de tomates sont plus sensibles ou plus douillées que les plants de tabac ?
Alors là, effectivement, il faut faire attention aux termes qu'on va utiliser parce que la tentation de l'anthropomorphisme
est
grande.
Il ne faut pas aller trop loin, hein, même alors, si c'est assez séduisant cette histoire.
Il est trop tôt sur en clair pour dire que les plantes hurlent de douleur. Mais quand même, cette découverte, elle va dans le sens d'autres travaux sur les capacités extraordinaires des plantes. Ainsi, certains chercheurs n'hésitent pas à dire aujourd'hui que les plantes pensent. Alors comment ? Elles n'ont pas de cerveau ni de système nerveux, on ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'elles sont sensibles au choc. Alors ça, les pépiniéristes le savent bien. Quand ils ont des chrysanthèmes, ils les secouent pour qu'elles arrêtent de pousser en hauteur et qu'elles deviennent plus touffues. L'année dernière, on a vu que les plantes étaient aussi sensibles aux mêmes anesthésiques que l'être humain. Alors on sait encore que les plantes, elles émettent des molécules dans l'air comme dans le sol. Par exemple, quand des ruminants broutent des plantes, elles émettent des composés au goût désagréable qui vont pousser les bestioles à aller brouter plus loin. De même, quand un maïs est attaqué par des chenilles, elle est capable d'émettre des molécules qui vont faire venir des guêpes qui vont pondre dans ces chenilles. Alors, dans ces circonstances, pourquoi pas des cris ? Les chercheurs ici, en tout cas, ont enregistré des sons pour la tomate et le tabac, mais ils supposent que ça va être le cas pour toutes les espèces. Tout ça reste à confirmer, c'est une prépublication qui n'est pas encore parue dans un journal à comité de lecture, mais en tout cas, il semble bien que le monde extraordinaire de plantes ne soit pas un monde de silence.
Alors ne mélangeons pas tout, ce ne sont pas des plantes hein, qui poussent ces cris, mais des babouins. Et si vous tendez bien l'oreille, vous entendez qu'ils enchaînent deux voyelles. Waouh ! Waouh ! Une pièce à verser au dossier de la question des origines de la parole. Une étude vient de paraître dans Science Advances. Voilà qui rebat les cartes, Benoît Tonson.
Et oui, Daniel, puisque outre la pilosité et l'agilité, ce qui nous sépare le plus de nos cousins les singes, c'est bien la parole. Et cela fait très longtemps que les scientifiques cherchent à percer ce mystère. Donc certains se sont dit, peut-être que si on élevait un chimpanzé comme un humain, bah, il parlerait comme un bébé.
Et des tests ont été faits, des expériences dans
oui,
ce sens.
Oui, en fait, ce sont des couples qui ont essayé d'élever les chimpanzés comme leur propre bébé en même temps. Et donc, ça a commencé en 1933 avec le couple Kellogg qui a élevé Guba comme leur fils George. Résultat, échec total, le singe n'arrive pas à prononcer un seul mot.
Et ça a été tenté encore ensuite, en 1952.
Hein. Exactement, c'est le couple Ace, cette fois-ci, qui retente. Et c'est un peu mieux puisque Vicky, une jeune chimpanzée, va réussir à babiller, à prononcer quelques mots en anglais comme « mom »,« dad » et « tea ». Mais en n'utilisant pas forcément à bon escient et sans arriver à former de phrases.
Et on a une hypothèse pour expliquer ces échecs, Benoît ?
Oui, et on la doit à Philippe Lieberman qui, dans les années 70, nous propose la théorie de la descente du larynx. Ce qui est bien avec cette théorie, c'est qu'elle a le mérite de la simplicité. Mm-hmm. Puisque tout simplement, il est allé comparer les crânes d'Homo sapiens et de singes. Et il a vu que chez le singe, le larynx était plus bas que chez l'homme.
Donc cette différence anatomique du conduit vocal le pousse à dire c'est pour ça que les humains sont capables de parler et pas les singes.
Voilà, c'est exactement ce qui l'empêcherait de prononcer des sons de parole bien différenciés comme nos voyelles I, A et U que l'on retrouve dans la quasi-totalité des langues humaines.
Et que dit alors l'étude publiée cette semaine qui vient un peu changer la donne ?
Bien tout simplement qu'il avait tort, et que ça fait 50 ans qu'on se trompe. Mm-hmm. Et donc c'est le travail de Jean-Louis Boé de l'université de Grenoble qui nous le dit. Premièrement, ce ne sont pas les capacités anatomiques invoquées par Lieberman qui sont à relier avec la production des voyelles, mais c'est un peu plus complexe que ça, c'est la forme globale du conduit vocal. C'est aussi et surtout les positions relatives de la langue, des mâchoires et des lèvres. Et deuxièmement, on sait aujourd'hui que les singes produisent des associations de sons bien différenciées en fonction de ce qu'ils veulent dire à leur communauté. C'est-à-dire que quand ils vont chercher à prévenir leur congénère de la présence d'un prédateur ou de vouloir s'accoupler, ils vont pas dire et prononcer les mêmes sons.
Et donc, que peut-on conclure quant à l'émergence de notre parole ?
Bah, tout simplement que si on se basait sur cette théorie-là, les premiers traits anatomiques où on voit ça, c'est il y a 200 000 ans, et c'est chez Homo sapiens. Alors que là, puisque la théorie ne tient plus, on doit remonter dans le temps et aller voir nos premiers ancêtres communs des singes et des humains. Et finalement, on remonterait à 20 millions d'années. Ouais. Donc c'est quelque part entre 20 millions d'années et aujourd'hui.
Ah oui, non, mais c'est un pas en arrière de géant, là, si on remonte bien plus loin en arrière pour les origines de la parole, avec cette nuance entre parole et langage, hein, Mathieu Novak.
Oui, mais c'est, jusqu'à présent, c'était vraiment ce dogme que la parole était le propre de l'humain. Ouais. C'est quelque chose qui vient de voler en l'éclat. Mais justement, la parole ne l'est pas, le langage, ça va devenir plus compliqué.
Exactement, puisque le langage, c'est finalement beaucoup plus complexe que la parole, puisque c'est tout un tas de règles, de grammaire, de mots, etc. Donc on est encore bien plus loin.
Ouais, là, on est dans l'articulation de
voilà,
la parole.
Voilà, une sorte de prémisse de la parole.
Et pour en savoir plus sur cette étude, on peut lire l'article sur le site The Conversation France, intitulé « La parole ne serait pas apparue avec Homo sapiens ». Et ce sont les singes qui nous le disent. Nous allons mettre un lien sur la page de l'émission et puis sur la page Facebook du Vent dans les Synapses. Dans le reste de l'actualité scientifique, Mathieu Novak, les dinosaures avaient des poux préhistoriques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Ah oui, alors vous savez que ces dernières années, on a établi que de très nombreux dinosaures avaient des plumes. Alors que ce soit juste sur la tête, sur la queue ou dans le corps entier, ils avaient des plumes. C'est pas quelque chose de rare du tout. Mais qui dit plumes, dit parasites qui aiment s'y loger. Et là, cette fois-ci, des paléontologues américains et chinois ont découvert des insectes en tout point similaires aux poux modernes qui colonisent les plumes des oiseaux. Mmh. Alors ils ont eu la grande chance de pouvoir les observer directement. Ils ont vu une dizaine de nymphes autour de plumes de dinosaures. Alors comment c'est possible ? C'est que tous ces insectes étaient pris dans l'ambre. Alors je vous rappelle ce que c'est que l'ambre, c'est de la résine de conifères qui s'est fossilisée. Donc il y a dans les temps préhistoriques, il y a eu beaucoup d'animaux ou de végétaux qui se sont pris dans cette résine et qui se sont fossilisés avec et sont restés à un état figé pour l'éternité. On a un fabuleux gisement en Birmanie qui régulièrement nous donne des exemples comme ça, datés tous de 99 millions d'années. Et donc c'est là-dedans qu'ils ont trouvé ces poux. Et donc on a maintenant la première preuve que les dinosaures subissaient déjà ce calvaire bien connu de tous les parents de jeunes enfants, les poux.
On ne sait pas s'ils arrivaient à se gratter.
On ne sait pas, mais c'est probable parce qu'on a vu qu'il y a des petits... Les plumes sont un petit peu attaquées. Ils ont les insectes ont des grosses mandibules et on a vu que la plume est un peu abîmée à certains endroits.
Ah oui, d'accord. Donc
ça devait les gêner, ça devait les gêner.
Ça devait les gêner, ces poux. Benoît Tonson, découverte de la plus ancienne œuvre d'art préhistorique au monde.
Et oui, et ça se passe en Indonésie, sur l'île des Célèbes.
Ouais.
Donc c'est une équipe de chercheurs australiens et indonésiens qui vient de découvrir une grotte sur les parois de laquelle ils ont pu observer des peintures représentant des scènes de chasse. Et en fait, il ne s'agit pas de n'importe quelle peinture rupestre, puisqu'ils ont prouvé que ce serait la plus vieille jamais découverte.
Ah, et la plus vieille, elle daterait de quand alors cette peinture ?
Eh bien, d'environ 44 000 ans. Donc à titre de comparaison, si on prend la grotte de Lascaux qui daterait un peu entre 14 000 et 20 000 ans, là on parle presque d'art contemporain. Et autre chose d'absolument remarquable, c'est que les peintres ne sont pas contentés de reproduire la réalité telle qu'ils la voyaient, en fait, comme si ils avaient représenté des hommes chassant le gibier de l'époque. Puisqu'on peut y voir ce qu'on appelle des créatures thérianthropes. Ce sont des personnages mêlant des caractéristiques à la fois humaines et animales, un petit peu comme les centaures ou le minotaure. Mmh. Et donc c'est donc bien la preuve que déjà, il y a plus de 40 000 ans, l'homme était capable d'abstraction, d'imagination et de raconter des histoires.
Découverte extraordinaire, mais moi je vous prédis d'âpres débats, parce que là on n'a pas une datation directe, ouais, mais indirecte, avec des pigments qui sont tombés dans le sol, et on date le sol. Il y a des guerres terribles pour savoir qui a la première peinture et la plus ancienne, on va en reparler de cette histoire.
Donc c'est-à-dire les 44 000 ans sont à prendre avec des pincettes ?
À prendre avec des pincettes, parce que selon l'endroit où la peinture est datée, on n'obtient pas tout à fait les mêmes dates.
Mmh. Oui, ils ont prévu de continuer les études pour dater différents endroits de la grotte et différents pigments également utilisés.
Ça sera débattu.
À découvrir sur le site de The Conversation France, Benoît.
Eh bien, je vous invite à découvrir la rubrique The Conversation Junior qui s'adresse aux enfants de 6 à 12 ans. Mmh. On répond à leurs questions.
Et Mathieu Novak, au sommaire de Science et Avenir, dans les kiosques en ce moment.
Dernier week-end pour notre numéro sur les maths qui expliquent tout. Et je vous donne rendez-vous mardi en kiosque pour notre hors-série sur la nouvelle histoire du cosmos, avec une interview aussi de Michel Mayor, le dernier prix Nobel de physique. Ouais.
Merci à tous les deux. Préparez-vous, dans une poignée de minutes, nous partons plonger à la rencontre des baleines à bosse, des cachalots, des orques et des dauphins.
A dream. I got everything I wanted. Not what you think. And if I'm being honest, it might have been a nightmare to anyone who might care. Thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. But I don't wanna let anybody know. Everybody wants something from me now, and I don't wanna let them down. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one. So you wouldn't wonder why you're here. would go straight to my head. What would they say instead? If I knew it all, then would I do it again? Would I do it again? If they knew what they said, would go straight to my head. What would they say instead?
C'était Everything I Want, Billie Eilish sur France Inter. Et juste après le flash, nous plongeons à la rencontre des cétacés avec l'océanographe François Sarano et le bioacousticien Olivier Adam. À tout de suite.